Le sujet, l'homme, un mort vivant. Évidemment, c'est un type de sujet qui suppose que on vit pas intensément. Bernard, dans la dynamique de développement qu'on avait en première partie, dans la dynamique de développement qu'on a ou on a à subir une partie de notre vie, l'aspect vivre sa vie, là, disons, si je voudrais développer un peu plus à fond, là, vivre sa vie en étant conscient des plans. Comment l'individu peut en arriver à être conscient de plans invisibles et avoir une appréciation de vivre le plan matériel quand on sait que tout est mené d'en haut?
Bon, ça, c'est une question intéressante. La relation entre l'homme dans la matière puis les plans, c'est une relation d'évolution. La conscience, au fur et à mesure que la conscience se développe, la conscience devient un résultat d'intégration, c'est-à-dire que l'intelligence que l'on a de ce qui se passe dans le monde se fond avec l'intelligence que l'on a de la réalité des plans. Ça se fond. Et une fois que c'est très, très fondu, ou que c'est très unifié, à ce moment-là, évidemment, la sensibilité de l'homme change, puis le regard que l'homme peut avoir dans le monde change, dans ce sens que, étant conscient, il va apprécier les belles choses à cause de sa sensibilité. Autrement dit, il va être moins astral. Sa conscience va participer moins à des activités de bas astral que des activités de haut niveau. Mais l'homme va chercher dans la vie les choses qui sont plus près de sa sensibilité. Donc, il ne vit pas de décalage, il vit pas de séparation. Par contre, dans le processus de conscientisation, à cause de sa spiritualité qui est très grande, il vit le décalage. Mais le décalage qu'il vit est nécessaire au début pour lui faire prendre conscience des plans. Si l'homme ne vivait pas ce décalage-là, il prendrait pas conscience des plans. Et les plans sont tellement subtils, surtout quand on entre dans le domaine de la communication télépathique avec le plan mental, que c'est comme si on vit deux vies à la fois. On vit une vie humaine ici, mm-hmm. puis on vit une vie intérieure très, très intense avec le plan mental. Donc ça a tendance, au début, à créer une dichotomie. Mais avec le temps, les corps s'ajustent, la conscience s'intègre, puis éventuellement, on bénéficie dans la matière de ce qu'on sait dans l'esprit. Et on peut utiliser ce qu'on sait dans l'esprit, dans la matière, de sorte qu'on élève le taux vibratoire de nos actes. Ici sur le plan matériel. Donc, un homme, par exemple, qui serait en affaires dans le monde, qui serait conscient, vivrait ses affaires ou le monde de l'affaire d'une façon très différente que s'il était inconscient. Autrement dit, il vivrait sa conscience d'homme d'affaires d'une façon très créative avec des gens qu'il trouverait dans le monde, créerait des partnerships créatifs, ainsi de suite. Donc, il n'y aurait pas tendance à astraliser le monde, qu'il soit en politique, ou qu'il soit en affaires, ou qu'il soit dans une carrière quelconque. Il n'y aurait pas tendance à astraliser et à subjectiver son activité. Donc, son activité serait très créative, et automatiquement, mais la vie sur le plan matériel, en tant qu'homme, prendrait une couleur que l'homme de l'involution ne connaît pas.
Bon, vous m'avez donné l'homme d'affaires. L'homme d'affaires, en général, une dimension, disons, où il apprécie ce qu'il fait en affaires, c'est les gains, les profits, et puis la stratégie dans laquelle il développe ces gains-là. Un individu conscient et créatif, où, lui, va-t-il apprécier ce qu'il fait comme affaire?
Il peut apprécier les gains, il peut apprécier la stratégie aussi, parce que c'est créatif. Par contre, ce qui va devenir impératif pour lui, ce sera ses relations humaines. Autrement dit, un homme conscient qui est en affaires va s'organiser pour faire des affaires avec des êtres qui ont une certaine sensibilité. Il ne traitera pas avec des gens qui sont réellement grossiers en affaires ou des gens qui sont totalement alignés sur le profit en affaires. Sa conscience va l'amener à réaliser que, dans le fond, les affaires, c'est la politique de la matière. Parce que dans la vie, tout revient à l'application de la psychologie. Et la psychologie, son application dans la forme, se manifeste éventuellement dans la politisation de la forme. Donc, tu pars de la psychologie qui est la science la plus importante pour l'homme, parce que la psychologie, c'est la science de l'être. Puis ensuite, quand tu l'appliques, cette psychologie-là, dans le monde, ça devient la politique de la psychologie. Et les affaires sont la politique de la psychologie.
Les affaires sont la politique de la psychologie.
Faire des affaires, c'est appliquer dans le monde la politique de la psychologie. Tu ne peux pas être dans les affaires et ne pas traiter de la politique de la psychologie. Politique de la psychologie, dans le sens que je le parle, veut dire l'application plus ou moins consciente de ta psychologie en fonction de ton rapport avec d'autres. C'est okay. Ça qui fait des affaires.
Ouais.
Fait que si c'est un restaurant, puis le monde vient de manger à ton restaurant, puis tu ne les traites pas comme des gens qui te rendent un service, ou que tu ne les traites pas comme si toi tu leur fais un service, mais que tu les traites comme si eux autres te font un service. Tu les reçois bien, tu t'occupes de leur donner une bonne nourriture, un bon service, leur rendre un séjour d'une heure ou de deux heures intéressant, leur faire un beau petit environnement, ainsi de suite. Ces gens-là vont revenir parce que tu vas magnétiser le corps astral. Donc, tu vas faire de la politique à partir de ta psychologie. Donc, de ta psychologie créative, tu vas politiser la forme. Ces gens-là vont revenir. Les gens qui ont du succès en affaires dans le monde, à quelque niveau que ce soit, sont des gens qui intuitivement sont capables de faire, de politiser leur psychologie, autrement dit, de rendre concrète ce qu'ils ressentent dans leur tête, et puis de lui donner une forme. Et c'est ça de la politique. De la psychologie. Puis si tu fais ça en affaires ou si tu fais ça dans un certain travail quelconque, dans n'importe quel travail, dans l'éducation, en médecine, en droit, à ce moment-là, tu deviens un homme qui est aimé des gens avec lesquels tu travailles, avec lesquels tu as des relations. Tu deviens apprécié pour le service que tu rends, ainsi de suite. Puis naturellement, il y a un retour. Le retour, c'est le profit, c'est la conséquence de... Par contre, l'homme qui est inconscient, lui, le profit devient la chose importante tout de suite. Parce qu'un homme conscient, le profit va venir. Ça va prendre du temps, mais il va venir. Parce que, éventuellement, tu crées un égrégore positif dans tes relations humaines. Fait que tu ne peux pas indéfiniment demeurer sans un retour. Parce que tu donnes, puis tu donnes, puis tu donnes, puis tu donnes. Fait que la politisation de la psychologie, c'est que tu sois simplement intuitif ou que tu sois conscient. Ça fait partie de la descente de cette vibration-là dans la matière, puis c'est ça qui te permet d'établir une liaison entre l'invisible et le matériel, de sorte qu'à ce moment-là, la vie devient très intéressante, que tu fasses n'importe quoi, elle devient intéressante.
OK, vous disiez, un individu conscient, le profit est une conséquence de sa créativité. Est-ce que ça suppose que le fait d'être conscient et de se manifester d'une façon quelconque au niveau pratique, au niveau concret, ça va éventuellement... Peu importe la façon, ça va éventuellement donner un profit à long terme, et ça, c'est garanti.
Si l'être se conscientise, il ne peut pas demeurer indéfiniment pauvre, autrement dit, il ne peut pas demeurer indéfiniment prisonnier de la survie, parce que la survie fait partie de l'inconscience de l'humanité. Donc, sa vibration va monter, va monter, va monter, sa conscience va grandir, va prendre expansion, sa créativité va devenir très grande, et un jour, il va bénéficier... De ce renouvellement d'énergie-là.
Bon, est-ce que, dans le parallèle à ça, est-ce que l'inconscient...
Parce que la pauvreté ou la survie ou la condition dans laquelle l'homme vit aujourd'hui, c'est totalement non intelligent. Ça fait pas partie des lois de la vie, ça fait partie des lois de la mort. Quand je dis que l'homme est un mort vivant, par exemple, être un mort vivant, ça veut dire vivre sur une planète et ne pas bénéficier totalement de sa conscience. Être régi par les lois astrales de l'âme, donc être régi par les lois du plan astral de la mort, dans son vécu quotidien, vivre une programmation astrale à partir du moment où on vient au monde, jusqu'à temps qu'on meurt, à moins de passer d'un niveau d'inconscience à un niveau de conscience. Donc, la vie aujourd'hui, la façon dont l'homme moderne vit ou dont l'homme ancien vivait, c'est totalement désordonné, c'est anti-intelligence. La pauvreté est anti-intelligence. C'est une abomination, la pauvreté. Alors, l'homme ne peut pas s'émanciper, ne peut pas mettre à l'œuvre sa grande créativité, qui peut être très vaste, dans un vase clos. Donc, l'homme a besoin d'un certain appui matériel, puisqu'il est dans le monde matériel. Par contre, pour en arriver à avoir accès à cet appui matériel-là, d'une façon régulière et ascendante, ça y prend une conscience qui est très vibrante, qui est très égale à son pouvoir créatif, et ça prend le temps que ça prend pour qu'il en arrive à ce niveau-là.
Est-ce qu'on pourrait faire le parallèle comme quoi, plus on est dans la survie, plus on est inconscient, puis moins on est dans la survie, plus on est conscient?
Pas nécessairement, parce que quand on parle du thème survie, le thème survie s'emploie à deux niveaux. Il y a des gens qui ne sont pas dans la survie matérielle, mais sont dans la survie psychologique. Il y a des gens qui sont dans la survie psychologique, mais ne sont pas dans la survie matérielle. Il y a des gens qui sont très riches, donc ils n'ont pas de problème de survie matérielle, mais ils ont des gros problèmes psychologiques. Il y a des gens qui sont très pauvres, ils ont des problèmes de survie matérielle, mais dans leur tête, ils sont très bien. Fait que l'homme vit la survie à deux niveaux. Ça, c'est universel pour tous les hommes sur la Terre. Pour que l'homme soit libre de la survie psychologique et matérielle, il faut qu'il soit conscient. S'il n'est pas conscient, il peut être libre d'un ou de l'autre, ou être prisonnier des deux. Mm-hmm. Quand tu as des problèmes psychologiques, puis tu as des problèmes de survie en même temps, là, c'est un karma qui est lourd. Mm-hmm. Je ne parle même pas de la santé, là. Je parle rien que là, de la matière. Alors, tu prends un étudiant, par exemple, qui s'en va à l'université, qui cherche ce qu'il va faire, mais au moins il est à l'université, il est content, il étudie, mais il y a des problèmes de survie matérielle. Il sort de l'université, il y a encore des problèmes de survie matérielle. Ça prend des années avant de se sortir de ça. Donc l'homme est prisonnier d'un des deux, ou des deux à la fois. L'homme conscient, éventuellement, sera libre des deux.
Bon, l'homme conscient a accès à une conscience de l'invisible. Il est conscient parce qu'il a accès à l'invisible. Est-ce que l'invisible l'informe sur comment se sortir de la survie? Est-ce qu'il peut demander à l'invisible comment se sortir de la survie, autant psychologique que matériel?
Si on parle du contact avec l'invisible, il y a deux niveaux où l'homme peut être en contact avec l'invisible. L'homme peut être en contact avec l'invisible au niveau du plan astral. Un médium, par exemple, va être en contact avec le plan astral de l'invisible. Le contact avec le plan astral de l'invisible, c'est un contrat karmique, même si l'homme est en contact avec le plan astral de l'invisible. Communiquer télépathiquement avec des entités, c'est un karma. Parce que les entités sont des âmes humaines qui sont dans un corps astral. Donc, ce sont des âmes qui ont vécu sur la Terre. Ce sont des âmes qui ont un certain niveau d'évolution. Ce sont des âmes qui sont régies par le monde de la mort, donc qui sont régies par les lois du mensonge cosmique. Donc, l'homme ne peut pas complètement, parfaitement, intégralement, absolument se fier sur une communication avec l'invisible de l'astral. Dépendant du contrat karmique, dépendant du lien qu'il a, il va bénéficier et il va souffrir en même temps de ce lien-là. Parce que ça fait partie des lois de l'évolution. Si l'homme est conscient au niveau du mental, qui est en contact avec le double, ce qu'on appelle l'esprit dans notre civilisation, à ce moment-là, l'homme est en son grand soi, son être, son principe universel. À ce moment-là, l'homme est en contact avec un niveau de conscience qui n'a jamais eu d'expérience planétaire dans le cosmos. Donc, ce sont des êtres de lumière qui ne s'incarnent pas. Sont régis par les lois de l'éternité, ces êtres-là, ils descendront vraiment de la matière. Ce sont des êtres dont la fonction dans leur monde est de s'assurer à l'évolution de ce qu'on appelle l'esprit, c'est-à-dire à l'évolution graduelle au cours des âges de la pensée humaine, donc inévitablement de la conscience. Quand l'homme est conscient de ces êtres-là, de cette source-là, de sa source, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de demander. C'est que la rencontre, la fusion, l'union, c'est le résultat. Mais un résultat qui est ascendant, qui est suffisamment long. Parce que l'homme doit passer de l'inconscience astrale à la conscience mentale. Il doit passer de la personnalité à la personne. Il doit passer d'un être qui n'a pas d'identité à un être qui en a une. Il doit passer d'un être qui n'a pas de centre de gravité à un être qui en a. Il doit passer d'un être qui n'est pas lucide à un être qui devient. Il doit passer d'un être qui pense, un être qui communique télépathiquement avec les circuits universels. Il doit passer d'un être qui est totalement assujetti à un être qui est assujetti. Donc, c'est tout un processus de transformation. Et ça nécessite pour l'homme une conversion totale de sa façon de voir, de sa façon de penser et de sa façon de percevoir le monde dans lequel il est. Mais quand je parle du monde dans lequel il est, je veux dire les valeurs que le monde s'est donné au niveau du libre arbitre universel involutif pour avoir une certaine prise inconsciente sur la vie. Donc, la politique, la valeur de la politique, la valeur des religions, parce que ces deux valeurs-là dans le monde sont très importantes, même si l'homme n'est pas impliqué nécessairement directement dedans en tant que décideur, il est impliqué dedans en tant que receveur.
Mm-hmm.
Fait que tous les hommes sont influencés par la politique ou les valeurs idéologiques de la politique dans le monde. Vivre en Russie, vivre au Québec, c'est pas pareil. Puis tous les hommes sont influencés aussi en fonction des valeurs religieuses qu'ils ont. Même si l'homme est athée, l'homme est influencé par des valeurs religieuses ou leur absence. Et ça conditionne sa psychologie personnelle. Puis de ces deux grands courants-là, qui sont toujours dans l'ambiance psychologique de l'ego, il y a les rapports interrelationnels de l'homme avec l'homme, qui varient selon les rencontres, et qui sont susceptibles, dans leur variation, de créer de la souffrance ou de la joie, dépendant des centres de gravité de l'ego, dépendant du développement de son centre émotionnel, et ainsi de suite. Ça affecte notre vie au travail, ça affecte notre vie de couple. Puis, après ça, il y a deux autres grandes lignes de force dans la vie de l'homme, la sexualité et l'argent. La sexualité, c'est très occulte. Les études sur la psychologie que les psychologues font, que les hommes font, sont très, très superficielles. La psychologie, ça va très profondément dans la manipulation des éthers astraux de la conscience humaine. Puis l'homme n'est pas conscient de ça.
Est-ce qu'il y a une relation entre la sexualité et l'argent?
L'argent, c'est une énergie astrale qui sert à la manipulation du corps mental de l'homme, puis la sexualité, c'est une énergie astrale qui sert à la manipulation du corps émotionnel de l'homme. Ils ont deux fonctions totalement différentes. La manipulation de l'énergie sexuelle sur la Terre, à part du plan purement procréatif, c'est celui de permettre à l'ego mort de se sentir en valeur, en action créative,
mm-hmm.
puis à l'ego de la femme de se sentir en union affective. S'il y a une brisure là-dedans pour une raison ou une autre, il y a une souffrance. L'argent, ça sert sur le plan matériel à contrôler le débit créatif de l'ego par rapport aux structures sociales qui ont été composées, qui ultimement lui font miroiter une valeur sociale quelconque, ce que vous appelez un statut, qui le met en confiance personnelle ou moins en confiance personnelle par rapport à son ego inconscient. Puis c'est jamais absolu, ça, parce que tu peux être bien smart, puis tu peux être bien fonctionnel, puis tu peux être président de compagnie, puis tu fais bien de l'argent, puis ta compagnie a bien du succès, puis d'un coup, il y a un crash, paf, puis tu perds des culottes. Fait que t'es pas encore en contrôle. Donc l'homme est manipulé à partir des éthers astraux et à partir des éthers du plan mental. Puis, il n'en est pas conscient. Donc, automatiquement, sa vie sur la Terre, c'est un passage qui est très bref. Il n'a aucune possibilité d'avoir accès, après la mort, à l'immortalité de son corps éthérique. Donc, il va chercher dans la mort la solution éphémère de son véhicule astral. De sorte que quand il sort de son corps matériel à la mort, là, il est content parce qu'il est libéré des chaînes de la matière. Mais là, il est régi par les lois de la mort, qui est un autre monde, absolu en soi, que ces lois aussi rigides que nous autres, on a nos lois, comme la gravité sur la Terre, où il est obligé de revenir dans la matière pour évoluer encore, les lois de réincarnation, jusqu'à temps que finalement, il connecte avec cette source-là, qui est le double, avec lequel il ne peut pas connecter quand il est dans le monde de la mort. C'est pour ça que d'ailleurs que les morts vivent toujours une tristesse et que les morts vivent toujours une jalousie par rapport à l'homme sur la Terre. Et ça, c'est une des raisons fondamentales pourquoi l'homme sur la Terre ne peut pas être heureux parce que le monde de la mort fait toujours interférence avec son bonheur sur la Terre. C'est impossible que l'homme sur la Terre soit heureux tout le temps parce que ça va contre les lois de la mort de toujours le soutenir dans sa vibration. Donc, même si l'homme vit par intuition proche du plan astral, si l'homme vit par intuition
proche d'une entité qui a déjà été en lien karmique avec lui. S'il y a un certain amour, une certaine fidélité entre les deux, cette entité-là ne peut pas le maintenir dans un état de conscience glorieuse. Parce que le monde de la mort, c'est un monde où l'intelligence n'existe pas, où seulement la mémoire persiste. Donc, les morts sont des êtres qui sont en enveloppe astrale, sur différents plans. Il y a des morts qui sont très, très malheureux dans les plans astraux de basse vibration, que l'Église, dans sa théologie, appelle les enfers. Comme il y a des morts qui sont plus heureux sur les hauts plans de l'astral, dans ce que la théologie encore appelle le ciel, dans sa théologie, ou d'autres religions. Mm-hmm. Mais d'une manière ou d'une autre, ces êtres-là, bien qu'ils aient une capacité d'évoluer dans le plan astral, il y a des êtres en enveloppe astrale qui ne veulent pas revenir sur la Terre parce qu'ils sont très bien dans l'astral. Mais un jour, ils seront obligés de revenir dans la matière, soit sur notre planète ou sur d'autres planètes, pour éventuellement connaître la fusion parce que l'esprit, la lumière, les êtres qui font partie de ce qu'on appelle l'éternité, doivent éventuellement fusionner avec la matière à travers l'âme et l'ego. Ça, c'est un principe cosmique. Ça a été révélé au 20e siècle, puis c'est inévitable au cours des âges. Donc, les morts, un jour, vont devoir revenir se réincarner, même si aujourd'hui, ils vivent des vies bienheureuses, les saints, par exemple. Un jour, il va falloir qu'ils reviennent dans la matière, parce que même les saints sont sans dessein. Autrement dit, l'ignorance, mm-hmm. l'ignorance cosmique n'a rien à voir avec la sainteté de l'être. Un saint, c'est un être qui, à cause du contrat karmique avec des plans, a été utilisé dans sa vie pour maintenir à la vue de l'homme emprisonné dans la matière l'existence de plans extraterrestres ou paraterrestres ou paranormaux. Ça, c'est la fonction de la sainteté sur la Terre. La fonction de la sainteté sur la Terre, ce n'est pas de sanctifier l'humain. La fonction de la sainteté sur la Terre, c'est de faire réaliser à l'humain qu'il y a des forces parallèles qui sont astrales, que l'homme ne connaît pas, mais qui sont astrales, et qui connectent avec l'homme pour créer des phénomènes particuliers, pour l'assurer d'une présence après la mort sur d'autres plans. Ça fait partie des services spirituels qui sont rendus par l'astral pour continuer à garder l'homme dans l'ignorance. Parce que la fonction du monde de la mort, c'est de perpétuer l'ignorance sur la Terre. La job des morts, qu'ils soient dans le bas astral ou qu'ils soient dans le haut astral des bienheureux, c'est de perpétuer l'ignorance sur la Terre. Ceux qui sont allés à Medjugorski, par exemple, en Yougoslavie, là, qui ont étudié ou qui ont lu les rapports des enfants, là, qui sont en contact avec la Vierge, là, puis les genres de questions qu'ils posent à la Vierge quand ils tombent en transe, puis les réponses qu'ils reçoivent, c'est déboussolant de stupidité. Autrement dit, jeûner, prier, ça c'est réellement ça, nous prendre pour des idiots. Tandis que moi, si je vais à Medjugorski, puis que
je vais aller avec vous,
elle est faite à l'os. Parce qu'elle pourra pas me passer de sabot de main. Comprends-tu? Puis elle va être obligée de me répondre. Parce qu'elle va être... Il voit la lumière. Fait qu'automatiquement... Fait que c'est pour ça que du monde comme nous autres, on vit pas ça à ce niveau-là. Mm-hmm. On ne vit pas de contact avec des entités astrales. Parce que on peut pas se faire jouer de game. On peut communiquer par télépathie avec eux autres. On n'a pas besoin de tomber en transe. Mm-hmm. Tout ça. T'sais. On a mm-hmm. tous nos sens, autrement dit. Ça fait que ça va loin, l'affaire.
Et quand on nous disait dans certaines...
Laisse-moi parler encore. J'ai encore un petit peu. Ça va loin, l'affaire, dans ce sens qu'il est temps que l'homme, sur la Terre, commence à comprendre que quand je parle d'ignorance, quand je dis qu'on est ignorant, je m'attaque pas au type qui a un doctorat. Ça prend des hommes dans le monde qui ont des doctorats puis qui ont réellement étudié la matière puis qui ont fait des grandes études. D'accord. Mais je dis que l'ignorance, quand on parle de l'ignorance occultement, ça veut dire que l'homme n'est pas conscient de la multidimensionnalité des plans. Il y a un qui étudie ici, là. La matière, l'atome, ici, là. Mais au-dessus de ça, il y a d'autres choses. Fait que si l'homme n'étudie pas les autres plans, il est réellement ignorant, même s'il a le prix Nobel de la physique. Parce qu'un jour, il va venir un temps où, avec l'avancement de la science, le développement de la science éthérique, ces sciences-là ne seront plus utiles, anyway. Parce que ces sciences-là sont trop limitées par le fait que l'homme est obligé de les étudier à partir de ses sens ou de l'extension de ses sens. Un jour, l'homme va pouvoir aller sur les plans éthériques pour étudier la matière dans sa conscience vive, puis l'altérer à partir de là. Mais l'homme, quand on dit que l'homme est ignorant, on dit que l'homme n'a pas conscience de la réalité des mondes parallèles. Et avant que l'homme connaisse et comprenne les mondes parallèles du mental, de l'esprit ou du double ou de son principe universel, faut que l'homme passe à travers le plan parallèle de sa conscience astrale, qui est manifesté en lui par la stupidité de sa pensée subjective. Autrement dit, c'est pas naturel, cosmiquement parlant, psychiquement parlant, c'est pas naturel que l'homme vive des pensées stupides. Fait que si tu vis des pensées stupides, c'est parce que c'est astralisé. C'est pas toi, ça, qui vis ça. C'est pas toi qui crée ça. C'est pas ta lumière qui crée ça. C'est pas ta source qui crée ça. C'est de l'interférence, quelque part, qui crée ça. Donc, il y a des forces astrales qui manipulent la conscience humaine. C'est pour ça que l'homme vit une pensée subjective. Et il faut que l'homme passe à travers ça. Comme je donne souvent l'exemple de la jeune fille qui est jeune, ou le jeune homme qui est jeune, puis qui se fait dire qu'il est stupide, puis qu'il va rien faire dans la vie. Ça vient pas de sa source. Ça vient de l'astral. Quand je dis que l'homme, c'est un mort vivant, c'est un vivant qui est manipulé par le monde de la mort. Donc, c'est un mort vivant. Une fois que l'homme, si l'homme est pas, ça y en prend pas trop longtemps. C'est pas trop long pour commencer à comprendre. Quand l'homme commence à comprendre ça, quand tu commences à voir ou rentrer dans la psychologie de la conscience supramentale, puis voir, au-delà de la psychologie classique, les éléments ou les paramètres fondamentaux de la pensée humaine, à ce moment-là, il commence à voir clair. Là, il commence à voir la guerre. Fait que quand il se fait dire qu'il est stupide, là, il commence à couper avec ses pensées-là. Il commence à arrêter de penser que c'est lui qui pense de même. Fait que quand tu arrêtes de penser que c'est toi qui penses niaiseusement, tu commences à penser intelligemment. Fait que ça arrête un jour.
Ouais.
La magnétisation de ton corps mental cesse, puis éventuellement, tu commences à rentrer dans ta conscience, tu commences à être un petit peu plus, avoir plus de discernement, plus lucide, tu commences à développer des centres de gravité, puis tu commences à réellement commencer à comprendre la vie, tu commences à la voir, comment ça marche. Puis là, t'as voué, là, sur toutes ces facettes, puis tu vois que c'est une grosse game. Quand tu comprends que la vie, c'est une grosse game, puis t'es plus capable de te faire prendre dedans, là, t'es intelligent. Avant ça, même si t'es un doctorat, t'es un ignorant.
Est-ce que ce serait trop en demander que lorsqu'une situation est critique, complexe, je dirais qu'entre deux individus, il y a une haute tension au niveau des jeux de personnalité, est-ce que c'est trop demandé d'avoir accès à cet invisible-là pour régler le problème? En d'autres termes, que deux individus qui ont un dilemme puissent aller direct dans une information, même s'il y a un d'ordre astral, de laisser parler ça pour régler le dilemme, le conflit, la situation critique.
L'invisible ne parlera pas avec n'importe qui. C'est l'invisible qui choisit.
Ah, c'est l'invisible qui choisit.
Bon, le contact entre l'invisible au niveau de la télépathie, là, c'est un petit peu... ça dérange l'invisible. T'sais. L'invisible, quand ça te parle, ça dérange. Éventuellement, ça ne te dérange plus. Au début, ça dérange parce que l'ego est habitué à penser que c'est lui qui pense. Fait que si c'est quelqu'un d'autre, là, il commence à vivre une double personnalité. Mm-hmm. Il n'aime pas trop ça parce qu'il pense qu'il capote. Puis, tu sais, quand tu es tout seul, tu penses, mais quand tu commences à parler avec quelqu'un dans ta tête, tu commences à poser des questions. T'sais. C'est fait que, puis dans un sens, faut que l'ego se méfie de la communication avec l'invisible. D'abord, comme j'ai toujours dit, il ne faut jamais croire à l'invisible.
Mm-hmm.
Mais l'ego au début, ça fascine ça, parce que tu commences à recevoir des réponses qui viennent est intériorisé par l'invisible, il risque de se faire manipuler fortement par l'astral. Puis ça, c'est une des raisons pour laquelle, par exemple, moi, je donne des séminaires. Puis souvent, je vais dire à ma secrétaire, quand des gens viennent à mes séminaires, essaye de voir si ce sont des gens normaux, du monde normal. Si ce sont des gens qui ont eu des passés psychiatriques, des gens qui ont eu des défaillances, des grosses dépressions, fais bien attention parce que ces gens-là vont venir à mes séminaires, puis ils peuvent vivre un backlash. Parce qu'automatiquement, en venant dans mes séminaires, les entités se rebellent.
Mm-hmm.
Fait qu'automatiquement, les entités, en se rebellant, peuvent leur rendre la vie plus difficile. Puis il va falloir les récupérer, ces gens-là, plus tard. Fait que c'est pas un avantage. Puis c'est une drôle de situation parce que ce sont ces gens-là qui ont le plus de besoin de venir dans mes séminaires. Puis d'un autre côté, ce sont ces gens-là qui peuvent le plus souffrir de venir dans mes séminaires. Mm-hmm. Parce que quand les gens viennent dans mes séminaires, je renverse la table sur eux autres. Je renverse la table. Fait qu'automatiquement, si l'individu est normal, puis il est pas trop... Si il sort de mon séminaire, puis il est pas trop bousculé, je préfère ça que s'il vient dans un séminaire, puis il est trop bousculé, parce qu'après ça, il y a tout un travail qui se fait. Puis, tu ne peux pas refuser une notion qui est réelle. Tu peux refuser un concept, tu peux refuser une idée qui est psychologique ou philosophique ou spirituelle, mais tu ne peux pas refuser psychiquement une notion qui est réelle. Parce que ta réalité va l'amener, cette notion-là, éventuellement en surface. Donc, éventuellement, l'individu il est obligé de délier avec le phénomène foncier de sa réalité universelle par rapport au plan astral ou par rapport au plan mental, dépendant où il se situe évolutivement. Il y a des individus qui vont venir en communication avec leur source. Il y a des individus qui vont venir en communication avec des plans astraux de haute vibration. Puis il y a des individus qui peuvent venir en communication avec des plans vibratoires astraux de basse vibration. Puis ces individus-là peuvent vivre des retournements très difficiles. Ça peut même les amener à avoir besoin de traitements psychiatriques. Puis ça, c'est difficile. C'est difficile pour ma personne. Puis c'est difficile pour les autres. Donc, c'est très important. Puis je le dis en passant, si jamais des gens viennent à mes séminaires, puis qu'il y a des gens qui disent « Ah, ben tu devrais aller au séminaire de Bernard. Venez pas à mes séminaires tant que vous n'êtes pas prête par vous-même quand vous voulez vous-même venir à mes séminaires. » Comment ça prendrait 10 ans? Si vous vous laissez pousser à venir à mes séminaires, si vous venez à mes séminaires parce qu'il y a quelqu'un qui vous influence, c'est pas bon. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je n'étais pas prête à venir dans tes séminaires il y a 4 ans. Je suis venu 4 ans après. Là, ils sont prêts. » Vous pouvez vous rendez pas de service à des gens en disant, ben, faut que tu y ailles à ces séminaires-là, là. Des gens ont leur temps. Il y a des gens qui devraient même pas venir à mes séminaires. Des gens qui viendront jamais à mes séminaires. C'est fait que, il y a d'autres voies, il y a d'autres façons pour l'homme d'évoluer. Mes séminaires, les séminaires, c'est bien plus pour moi que pour vous autres. Mais les séminaires, ça me permet de descendre cette information-là sur le plan matériel, de créer une mémoire. Naturellement, il y a des gens qui peuvent en bénéficier dans le processus. Mais le point que je veux faire, c'est que les gens qui étaient dans mes séminaires, puis qui ont bien aimé ça, ainsi de suite, puis souvent, ils ont tendance à vouloir que des proches ou des amis viennent. Laissez-vous pas influencer par des amis ou par des gens proches. Viendez à mes séminaires quand ça sera le temps. Il n'y a pas de presse.
Vous avez dit tout à l'heure, c'est l'invisible qui nous choisit. L'astral semble nous avoir choisi en premier. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'en tout cas le jeu des entités, les influences astrales, on les ait très jeunes, ou du moins en tout cas en partant avec une programmation. Est-ce que l'esprit se manifeste à l'individu selon un statut d'évolution ou est-ce qu'il est présent toute notre vie? C'est-à-dire notre double, là, est-ce qu'il est là, présent?
Il est toujours là, seulement le double... Le rôle du double dans l'évolution cosmique incarnationnelle, de l'homme, c'est éventuellement de ramener l'homme à sa source. L'homme, il faut qu'il retourne à la source. L'homme est descendu dans la matière, ce que j'appelle l'évolution. L'homme doit retourner à sa source, ce que j'appelle l'évolution. Okay. Mais pour que le double connecte avec l'ego à travers le plan mental, il faut que l'homme soit suffisamment évolué. Donc, la job, si tu veux, du double pendant des milliers d'années d'évolution, c'est de préparer l'âme à travers son évolution à se développer pour qu'éventuellement son contenu, autrement dit sa mémoire, soit suffisamment perfectionné pour que le double soit capable de communiquer avec, connecter, fusionner avec, et pour que
cette mémoire, à ce moment-là, rendue très développée, autrement dit, quand l'âme est suffisamment évoluée, l'ego, lui, qui reçoit le choc de tout ça, soit capable de prendre le choc sans perdre ses esprits. Donc, le double n'est pas pressé à la fusion. Ça peut se faire dans 2000 ans, 4000 ans, 10000 ans, 15000 ans. Il travaille toujours avec l'âme. L'âme a toujours le même double. Quand on parle de l'homme, on parle simplement de l'enveloppe matérielle. Quand on parle de l'être, on parle de l'âme, essentiellement. Mais l'âme n'existe pas par elle-même dans la matière en évolution. L'âme existe par elle-même en astral. Dans l'astral, dans son enveloppe astrale, l'âme existe par elle-même et elle évolue par elle-même. Mais quand l'âme est dans la matière, elle n'évolue pas et n'existe pas par elle-même parce qu'elle a besoin du support mental, du double, autrement dit, de la connexion des circuits universels à travers l'illusion systémique de la pensée humaine pour convertir son énergie astrale en énergie matérielle qu'on appelle, nous autres, les émotions et la pensée ici sur la Terre, en énergie d'expérience. Donc, une fois que cette énergie-là est mise en mouvement par l'expérience, l'âme collecte ça. Elle collecte tout ça. Donc, l'âme, c'est une immense mémoire. Mais cette mémoire-là, pour qu'elle devienne utile à l'ego, il faut que le processus inverse soit fait. Il faut que la lumière prenne charge de l'âme à travers l'ego, au lieu que l'âme prenne charge de l'ego sans lumière. Donc, ce que j'appelle l'involution, c'est quand l'âme prend charge de l'ego sans la lumière. Donc, ça, c'est le processus d'involution adamique. Et l'évolution, c'est le temps où le double, la source, le principe cosmique prend charge de l'âme, fusionne avec l'âme, pour que, finalement, l'ego puisse prendre charge de lui-même sur le plan matériel, c'est-à-dire être conscient de sa destinée. Et un jour, quand le temps vient où l'âme se retire du corps matériel, l'âme, autrement dit, l'être, l'âme ne retourne pas au monde de la mort et l'âme est transmutée dans ses principes en une conscience morontielle qu'on appelle l'actualisation princière du principe mental dans le corps éthérique pour donner à ce qu'on appelle l'homme égoïfié consciemment le statut d'immortel. Pour que ça se fasse, faut que l'âme soit transmutée, c'est-à-dire qu'elle perde sur la conscience égoïque humaine, à travers les émotions et la pensée, son pouvoir d'astralité, qui est maintenu par le fait que l'âme, elle a des chums dans l'astral. Quand l'âme s'incarne dans la matière, elle a toujours un chum l'autre bord. Quand tu viens au monde, là, des petits gars qui viennent au monde, là, qui grandissent 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils disent à leur mère, « Ah, j'ai mon petit chum, je parle avec mon petit chum, ils ont tous des petits chums. » Bon, mais ça, c'est des entités dans l'astral qui communiquent avec l'âme qui est dans la matière. Il y a un lien, là. Fait que quand tu viens au monde, t'as toujours un parrain quand tu viens au monde. T'es pas tout seul quand tu viens au monde. Rendu à 7 ans, le parrainage casse. Sans ça, on serait des idiots nés. Rendu à 7 ans, le parrainage casse, puis le double entre en jeu. Donc, quand tu développes un ego à 7 ans, c'est le double qui devient, qui se manifeste plus fortement, mais toujours à travers le corps astral, toujours à travers l'âme. Fait qu'à ce moment-là, si tu as un homme qui est très évolué, puis que la lumière passe à travers cet homme-là, tu vas devenir un être sur la Terre qui va faire des grandes choses. Un grand médecin, un grand constructeur, un grand architecte, un grand... whatever. Si tu as une âme de basse vibration, le double n'est pas capable de passer sa lumière. Il y a de la difficulté parce que c'est un âme qui est jeune. Plus l'âme est vieille, ça veut dire que plus ton double a travaillé avec, il l'a travaillé, fait que l'âme est rendue très évoluée. C'est le double qui fait évoluer l'âme parce que c'est le double qui a la responsabilité de créer, quand tu t'incarnes, les composantes psychiques de ton corps mental et de ton corps émotionnel. C'est le double qui s'occupe de la composition, qui travaille avec de la lumière pour que toi, quand tu viens au monde, tu aies un corps mental qui a un certain taux vibratoire, puis un corps émotionnel qui a un certain taux vibratoire, qui est capable de recevoir toute la matière ou la mémoire de l'âme dans cette vie-ci, pour qu'avec cette mémoire-là, tu puisses mentalement, émotivement, vivre une expérience quelconque. Fait que c'est le double qui est en arrière, dont tu es inconscient, qui aide ton âme à évoluer, et qui aussi, à cause du pouvoir de l'âme sur ton émotion, puis sur ton mental, te fait vivre de l'expérience.
Mais un jour, l'homme est tanné de vivre l'expérience. L'homme, un jour, va en avoir ras-le-bol de vivre l'expérience. L'homme va vouloir un jour être un être simplement créatif. Quand tu es un être créatif, c'est parce que la connexion entre ta source, le double, et l'âme, la fusion, est tellement avancée que l'ego, lui, ne vit plus son émotivité et sa mentalité par rapport à la mémoire de l'âme. Il vit sa mentalité et son émotivité par rapport au rayon du miel qui part du double à travers une pensée créative et qui fixe l'âme dans les chakras de l'homme d'une façon tellement perfectionnée que l'être, finalement, il vit une grande paix. Il comprend la vie, il comprend la religion, il comprend la politique, il comprend le travail, il comprend les autres, whatever. Fait qu'à ce moment-là, ça, c'est l'homme nouveau, c'est l'homme de l'évolution future. Mais pour ça, ça demande une transmutation du corps mental et du corps émotionnel, puis ça demande une transmutation profonde aussi des valeurs qu'on a mis sur la vie. Donc, les valeurs des différentes idéologies matérielles, les valeurs des principes ou des concepts religieux qu'on a, etc. Ça, quand c'est transmuté, ça crée un choc à l'âme. Ça crée un choc à l'ego. Puis, si l'ego est pas suffisamment solide au niveau mental et émotionnel, autrement dit, si l'âme n'est pas suffisamment harmonisée dans la matière, l'homme vient un down. Si l'âme est suffisamment évoluée, puis l'ego est suffisamment solide psychiquement, psychologiquement, à ce moment-là, ben l'homme passe de la personnalité à la personne. Il développe des centres de gravité. Il devient un être identique à lui-même. Et à ce moment-là, mais la relation entre la source, l'âme, et l'ego, ça forme un axe de vie.
Mm-hmm.
Puis là, évidemment, ça continue, puis ça continue. Moi, j'ai pas fini mon évolution, ça continue l'évolution. Puis un jour, quand le temps vient où l'homme doit se départir de son corps matériel, à ce moment-là, c'est au niveau de son corps moronciel qui sort de la matière. C'est plus au niveau de son corps astral. Fait qu'à ce moment-là, il s'en va sur le plan intellect, et là, il travaille au niveau d'une nouvelle conscience. Il travaille au niveau de l'immortalité de sa conscience. L'homme ne retourne pas au monde de la mort. Il ne revient plus cycliquement dans la matière. Il a fini, il ne reviendra plus jamais dans la matière. Il va travailler sur d'autres plans avec des êtres qui sont dans ce même champ d'évolution-là. Et naturellement, il va donner à l'humanité, à cause de cette coexistence-là avec la matière qui est très proche, une science, une civilisation qui est neuve. Fait que c'est tout ça le processus qui se passe. Mais dans le monde de la mort, les entités dans le monde de la mort réagissent à la conscience de l'homme un peu de la même façon que nous autres ici, on réagit quand on perd le pouvoir. Quand on perd le pouvoir, quand un président de compagnie perd le pouvoir, ou quand un chef de pays perd le pouvoir, il veut lutter pour le maintenir, son pouvoir.
Mm-hmm.
Les âmes dans le monde astral qui ont un lien karmique avec l'homme, qui sont régis par des lois draconiennes, veulent pas perdre le pouvoir sur l'homme qui ont eu depuis des milliers d'années, qui ont cultivé à travers les religions, qui ont cultivé à travers le mysticisme, qui ont cultivé à travers toutes les notions psychologiques qu'on a sur la Terre, qui sont finalement les fondations mêmes de l'inconscience psychologique de l'ego. Donc, le pouvoir, ils veulent, puis ils vont le garder le plus longtemps possible, seulement qu'ils savent que maintenant, sur la Terre, il y a une percée qui vient du plan mental directement avec l'homme dans la fusion. La fusion est établie sur la Terre depuis 69. Donc, l'homme maintenant a accès à des notions systémiques qui pulvérise le pouvoir de l'astral sur l'âme. Donc, l'astral n'aime pas ça. Donc, sur le bas astral, il y a des réactions très fortes. Dans le haut astral, ils sont contents parce que finalement, ils savent qu'il y a une porte de sortie à leur éternelle solitude. Donc, c'est un petit peu ça là qui se passe.
Bon, là, j'ai deux questions. Je vais commencer par la première. L'astral, comment qu'elle peut se revenger de l'individu qui se conscientise. Dans le sens que si elle ne veut pas perdre le pouvoir, il faut qu'elle établisse une revanche sur l'individu qui se conscientise. Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là?
L'astral va toujours utiliser les points faibles des individus. Quand je parle de points faibles, ça peut être pour nous autres ce qu'on considère des points forts. Par exemple, l'astral, si un individu est très spirituel, tu prends un individu qui va à messe à tous les dimanches, un bon catholique, puis qui commence à se conscientiser, les valeurs, les bonnes valeurs nécessaire de son évolution vont être testés par l'astral. Il va vivre le doute. Il va vivre toutes sortes de choses. À ce moment-là, l'astral va se servir de ses notions spirituelles pour créer en lui un grand trouble dans son esprit.
Un type, par exemple, qui est, à cause de sa culture, de la façon dont il a été élevé dans sa famille, qui a tendance à sentir de la culpabilité, l'astral va commencer à le rendre coupable. Parce que là, il commence, l'astral perd du pouvoir. Donc, l'astral va tout faire pour qu'il se rende coupable, pour arrêter son évolution. Si le type est orgueilleux, si le type est jaloux, tout ce qui est faiblesse dans l'homme, l'astral va l'utiliser pour essayer de récupérer l'être, le garder sous son emprise. Puis éventuellement, mais l'astral ne pourra plus, fait que finalement, ces entités-là changent de plan. Puis l'individu, lui, sur la Terre, change de conscience. Fait que c'est une lutte. La transmutation de l'homme, le passage de l'involution à l'évolution, ce n'est pas du gravy, là, puis une sinécure spirituelle, puis un trip spirituel que les jeunes ont connu dans les années 60, là, à fumer du pot à Lausanne pour rencontrer la gang de moineaux là-bas, là. Autrement dit, la transmutation de l'homme, c'est totalement interne à lui-même. C'est une lutte interne entre lui-même, sa source, puis les inconvénients d'un contact plus ou moins évolué de l'astral, qui va reconnaître à travers la manipulation psychologique de son moi dans des pensées un petit peu frileuses.
Bon, j'ai un à côté dans ma question. Est-ce qu'une personne qui est assez consciente, qui peut pas être manipulée par l'astral, est-ce que l'astral peut vouloir manipuler ses proches? En ce sens que la personne, elle, en tant qu'individu, elle est protégée, mais elle va s'attaquer à sa famille, ses amis ou son enfant.
Ça n'a pas d'importance.
Ouais, mais...
OK, laisse-moi finir. Si une personne qui est consciente, qui est plus manipulée par l'astral, quand même que l'astral se jetterait sur d'autres entités autour, déjà, cette personne-là serait plus affectée. Autrement dit, une personne consciente, elle ne sera même plus affectée par ce qui se passe autour dans son milieu. Parce que ce qui se passe autour dans son milieu, ça fait aussi partie de leur faille. Autrement dit, si la personne, elle se conscientise et avoue à travers le jeu, cette personne-là va se libérer de l'astral. Si l'astral va à d'autres niveaux autour, dans son environnement, parce que l'astral peut toujours aller plus bas, puis plus bas, puis plus bas, puis plus bas, puis plus bas. L'eau, elle descend toujours au niveau de la mer. Tu veux dire?
Ouais.
Fait que l'astral, elle va toujours essayer, d'une façon ou d'une autre, de reprendre la revanche, mais toujours par rapport à celui qui a une haute vibration. Si lui est plus affecté, ça s'arrête là, le problème de l'astral, en ce qui le concerne lui. Si ça se perpétue dans son environnement, c'était déjà là en potentiel.
Ah, okay.
C'est
pas la personne consciente qui est responsable du fait que
non.
C'est juste accéléré parce que
c'est accéléré sont... parce que lui se retirait du pouvoir manipulateur de l'astral. Il va avoir des réactions autour. Ça, c'est normal. Mais éventuellement, il ne serait plus affecté par ça. Là. Parce que l'homme conscient, éventuellement, n'est plus affecté par ce qui se passe émotivement dans son environnement, dans la mesure où lui n'est pas responsable de ça.
Okay.
Comprends-tu? Sinon, il n'y aura aucune façon pour un être de se conscientiser. Parce que un être qui se conscientise, automatiquement, atteint un taux vibratoire, autrement dit, un niveau de lucidité qui le sépare de la masse. Donc, s'il se sépare de la masse va toujours essayer de le garder, parce que la masse, c'est astral. Donc, un être conscient est obligé de se séparer de la masse, puis pas seulement symboliquement en fonction de ses pensées ou de ce qui se passe dans son mental ou de ses rêves, mais en fonction de ce que la masse aussi peut vivre par rapport à lui. Naturellement, parce qu'il est conscient, il va vivre sa séparation d'avec la masse d'une façon consciente, intelligente, parce qu'il va toujours respecter le niveau de la masse. Tu respectes le niveau de la masse autour de ta personne, mais tu ne demeures pas indéfiniment prisonnier de la masse. Un jour, il faut que la masse n'ait plus de pouvoir sur ton comportement humain. Fait que si l'astral utilise la masse pour empêcher l'individu d'évoluer, c'est parce que déjà, il est impuissant contre l'astral.
Bon, l'autre question, c'est que vous avez dit, dans le processus involutif, les entités ont beaucoup d'influence. Dans le processus évolutif, le double prend en charge l'individu. Quel est le signe qui fait qu'on peut reconnaître que le double a pris en charge?
C'est inutile pour nous autres d'essayer de savoir si c'est astral ou si c'est le double. C'est une perte d'énergie, ça. Parce que de la pensée, c'est pas matériel. C'est trop subtil.
Mm-hmm.
Alors, ce que je réponds à cette question-là, c'est ceci. Quand tu es intelligent, t'es intelligent, puis quand t'es stupide.
OK.
C'est clair et net. Autrement dit, si tu veux t'acheter une maison, puis l'astral où tu reçois des pensées qui disent, ouais, tu devrais l'acheter la maison, tu devrais pas l'acheter la maison. Parce que ça te dit d'acheter la maison. Par contre, si tu as de l'argent en banque, si tu travailles, si tu as des bonnes cartes de crédit, si tu as une bonne job, puis si tu réalises que c'est intelligent de t'acheter ta maison au lieu de payer le loyer à quelqu'un d'autre, whatever, si tu as besoin de la PAC en pain, whatever. Si ça vient de toi, puis c'est intelligent, parce que c'est intelligent, ça ne se discute pas. Tu n'as pas besoin de contact avec ton double pour savoir si c'est intelligent. Autrement dit, avant d'être conscient, on a vécu, on a commis des actes intelligents.
Mm-hmm.
Quand on se conscientise, on en commettra d'autres actes intelligents. Fait qu'intelligent avant ou intelligent après, c'est intelligent anyway. Ben là, si tu commences à te demander, mais c'est-tu mon double qui me parle, mais c'est-tu mon last flight qui me parle, là, tu vas commencer à vouer des free games, tu vas vouloir croire, puis si c'est ton double, il va s'organiser pour que tu apprennes à pas croire. Fait qu'il va te dire, achète-la à la maison, puis tu vas t'apercevoir un jour qu'il y a une fondation qui est pétée dedans, puis il va te dire, ben, t'as peut-être pas croire. Fait qu'un jour, anyway, tu vas l'apprendre à pas croire. Fait qu'un jour, tu vas prendre tes décisions à partir d'ici. Tu vas en parler avec ta femme, tu vas en parler avec ton gérant de banque. Fait qu'autrement dit, quand t'es intelligent, dans ta tête, psychiquement, c'est plein, t'es intelligent ici. Si t'es pas intelligent dans ta tête, c'est plein, t'es pas intelligent ici. Fait que c'est inutile pour nous autres de dire, mais c'est-tu l'astral qui me parle, ça vient-tu du double? Ce qui est en haut est en bas. Fait que si t'es capable, en bas, de runner tes affaires, puis aller voir le gérant de banque, puis calculer si t'as de l'argent à la fin du mois, puis t'as une bonne job, à ce moment-là, ta décision intelligente, c'est être intelligente des plans, là.
Fait que l'affaire de la vibration.
C'est bien important, ça.
La question est
très importante, parce que je sais qu'il y a bien des gens qui font du channeling, qui font de la télépathie, qui communiquent, puis ils savent pas qui communique. Là, le gars, il se fait dire, c'est comme il y en a un à Montréal là, qui se fait dire, là, achète-toi, vends ta maison, là, achète-toi un trailer, puis va-t'en à Saint-Jobit, parce que les ovnis vont descendre. Fait que le gars, beau niaiseux, là, il vend sa maison, il s'achète un trailer, pas sa femme, avec sa famille, ça va à Saint-Jobit, puis attend la voix que les ovnis descendent. Il a attendu longtemps, il a perdu sa femme, il a perdu sa maison, il a perdu son trailer, là, il est sur le cul. Fait que là, c'est même ça marche.
Ouais.
Fait que là, on vit dans un temps où la fabulation est à son maximum, puis demain, elle va être encore plus à son maximum, puis après-demain, elle va être encore plus à son maximum. Fait que si vous êtes intelligent dans la vie, vous le savez, si vous n'avez pas, vous avez un gros problème.
Ça voudrait dire qu'une personne qui vit selon les évidences de ce qui orbite autour de lui ou d'elle, est constamment protégé.
Une personne qui se protège dans la vie.
Oui.
Une personne qui se protège dans la vie, c'est une personne intelligente. Tu veux me demander qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est le rôle de l'homme sur la terre? Je vais te donner une réponse qui est bien simple. Tu n'as pas besoin d'aller à l'Université de Montréal. La seule fonction, le seul rôle intelligent que l'homme a sur la terre, c'est de se protéger contre la vie. Tu te protèges contre la vie, t'es intelligent. Tu n'as pas besoin d'avoir un psychologue. Tu n'as pas besoin d'avoir un ballon à Montréal. Tu n'as pas besoin d'avoir ton dos pour venir. T'es correct. T'as pas de problème. Mais c'est du stock, ça protège.
Puis les gens qui sont en affaires, qui se projettent dans un avenir quelconque en essayant de construire un immeuble ou en essayant de construire quoi que ce soit, ces gens-là sont obligés de faire confiance à une sorte de...
Ils vont prendre des risques intelligents.
Ouais,
un bonhomme d'affaires, il va prendre des risques intelligents.
Bon, c'est quoi un risque intelligent?
Un risque intelligent, c'est un risque qui te permet de
pouvoir prendre ta perte si tu apprends.
Donc, il faut déjà calculer sa perte avant de commencer.
Ben, il faut que tu sois intelligent. T'es bon en affaires, tu rouvres un restaurant, tu calcules s'il y a du monde qui passe. S'il n'y a personne qui passe, la chance que ça marche, c'est pas bon, tu sais. Fait que, faut que tu calcules les intérêts. Faut que tu calcules si le restaurant est sous il y a du soleil qui rentre, tu veux faire une petite terrasse, tu sais. Fait qu'il y a un risque intelligent. Autrement dit, un risque intelligent, c'est une mesure intelligente du potentiel que tu as par rapport à une adaptation que tu veux faire de ton idée. C'est ça, un risque intelligent.
Mais prendre un risque intelligent dans quelque chose qui n'a jamais existé.
Prendre un risque intelligent dans quelque chose qui n'a jamais existé, c'est encore un risque intelligent dans ce sens que intuitivement, tu vas pouvoir sentir la possibilité. Tu as toujours de l'information qui rentre dans ton cerveau. Tu as toujours de la mesure, tu as toujours... Tu parles avec ton confrère, tu parles avec tes chums, il y a quelque chose qui se passe, il y a une sensibilité. Il y a des hommes qui ont pris des risques, il y a des hommes qui ont fait des choses qui n'ont jamais existé, mais ils sentaient en eux-mêmes que c'était la... It was the right thing to do, puis ils l'ont fait.
C'était pas smart.
Ça fait partie de leur expérience sur la Terre. Ils ont eu probablement des informations qui venaient de l'astral. Ça fait partie de l'expérience de l'âme. Ils ont enrichi la civilisation.
Mais vous parlez tout à l'heure qu'être intelligent, c'est travailler avec certaines évidences. T'sais, on est...
Être intelligent, c'est pas se faire chier. Ça, c'est être intelligent.
Okay.
Quand tu t'as pas chié dans la vie, t'es intelligent. Quand tu t'as chié, t'es pas intelligent.
Donc, prendre un risque...
Excusez le vocabulaire, là, il est approprié à soir parce qu'il pleut. Quand tu... Dans la vie, quand tu te protèges... Je parle pas là, d'être parano, là.
Non, non.
Dans la vie, tu te protèges, tu calcules tes affaires, tu te limites pas, tu donnes de l'expansion, mais tu te protèges. On dirait que le monde ne comprenne pas ça, se protéger. Tu te protèges. Autrement dit, il faut que tu saches que la vie, c'est une game. Il faut que tu saches que la vie, c'est de manipulation. Fait que quand, c'est comme les décisions. Quand tu as des décisions à prendre, tu t'assitues, t'en parles. Tu dirais, je m'en vais en business. Mm-hmm. Aller en business, c'est pas qu'aller en business. Ah, tu as de l'argent, là, tu peux aller en business. Ton chum dit, ah, j'ai une bonne affaire pour toi. Mais après ça, es-tu capable de soutenir le business, ton restaurant? Tu calcules-tu les heures qu'il faut que tu travailles dans le restaurant? T'es-tu prêt à mettre 20 heures dans le restaurant? T'es-tu prêt? Puis si t'es pas prêt, t'es-tu prêt à déléguer à quelqu'un qui va le faire la 20 heures? Tu connais-tu quelqu'un? Mm-hmm. Autrement dit, il faut que tu parles. Le problème avec les gens, puis la raison pour laquelle les gens se protègent pas dans la vie, c'est parce que l'homme a pas appris à parler avec d'autres individus. Puis je vous dis aujourd'hui, puis sachez-le une fois pour toutes, que c'est impossible d'être intelligent tout seul. Tu ne peux pas être intelligent tout seul. Tu ne peux pas être intelligent tout seul. Tu peux pas être intelligent tout seul. À deux, oui. À trois, oui. Tout seul, c'est impossible. Sais-tu pourquoi? Parce que tu vas avoir une partie du puzzle qui va être à la mesure de tes préférences, de ta personnalité. Tandis que si tu as un autre partner avec toi, il y a une autre personnalité, la vibration, elle va se casser, elle va passer par son cerveau, par le tien. Si t'es toi, c'est la même affaire. Tu ne peux pas être intelligent tout seul. Tu fasses un think tank à deux.
Minimum.
Un gouvernement, un chef de gouvernement, il ne prend pas des décisions tout seul. Il n'y a que les dictateurs qui prennent des décisions tout seul. Regarde ce qui arrive avec Saddam Hussein. S'il avait été intelligent, Saddam Hussein, il n'aurait pas attaqué Kuwait, il aurait attaqué Israël. C'est évident.
Merci beaucoup, Bernard de Montréal.